Comme tous les troisièmes jeudis du mois, histoire d'archives sur les ondes de Fréquence Mistral, digne de bain 99.3 et internet www.fréquencemistral.com. Laure Franek est dans nos studios. Bonjour Laure.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, programme très chargé qui concerne l'actualité.
Oui, 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 là, on a une fin d'année très dense à divers titres. Donc je voulais un petit peu inviter les auditeurs à venir fréquenter les locaux des archives départementales. Alors d'abord pour nos expositions, il y a toujours celle concernant la guerre, j'y reviendrai puisque je parlerai de la clôture du centenaire de la Grande Guerre qui va avoir lieu en novembre. Invitez aussi les gens à venir voir l'exposition qui est en cours jusqu'au mois de mars 2019, qui s'appelle « Au gré du temps », qui est une exposition qui a beaucoup de succès, puisque les deux médiatrices du patrimoine du service éducatif des archives ont sillonné le département pendant plusieurs semaines, avec des photographies fin 19e, début 20e, dans leur sacoche, et elles ont cherché, avec le photographe du service, à reprendre les mêmes photos, selon le même angle, pour voir ce qu'étaient devenus les villages, les paysages, presque 100 ans après.
Ce que vous disiez la dernière fois, qu'il fallait faire attention aux câbles électriques, aux paraboles, et ainsi
Tout
de suite.
Tout à fait. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup de photos de prise, et finalement peu de sélectionnées, parce que malheureusement, entre les voitures garées là où il ne faut pas, les panneaux... Il y a deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, les paysages ont beaucoup évolué, mais en plus, si vous voulez, la photo, d'un point de vue esthétique, elle n'était pas toujours intéressante à exposer, parce que voilà, vous arriviez jour de marché, par exemple. Alors c'est sympa le marché, mais si vous avez partout les bâches juste devant l'immeuble que vous aviez envie de photographier, évidemment, c'était raté. Voilà, donc, alors, ce procédé a un terme technique que je trouve très joli, qui est fort méconnu, qui s'appelle la photolalie. C'est un théoricien de la photographie qui a inventé ce mot-là il n'y a pas si longtemps que ça. On appelle ça aussi, c'est beaucoup moins joli, la re-photographie. Voilà, c'est un mot beaucoup moins joli, mais qui est peut-être plus explicite. Et voilà, parce que c'est une technique qui est de plus en plus, évidemment, utilisée, puisque maintenant la photographie a plus de 100 ans, même largement plus de 100 ans, et que c'est intéressant pour étudier l'évolution des paysages. Voilà, donc vraiment, j'invite tous les auditeurs à venir se rendre dans cette exposition. Et pour répondre aux demandes qui n'ont pas tardé, déjà être faite. Oui, il y aura une publication à l'issue de cette exposition. Ce sera une publication évidemment avec une sélection des photos et surtout des textes de commentaires sur ces images. Voilà, donc la photographie, voilà, Haute-Provence au gré du temps jusqu'au 1er mars 2019. Ensuite, eh bien, autre exposition dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, 17-18 Victoire, consacrée à la dernière année de la guerre. Là, cette exposition, elle sera en place jusqu'à la fin de l'année. Et elle trouve place, évidemment, dans les différentes manifestations qui ont trait au centenaire de la Grande Guerre. J'y reviendrai ensuite. Là, pour l'instant, l'actualité la plus brûlante, c'est ce soir, dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, en partenariat avec l'association Architecture Alpes de Provence, nous recevons quatre intervenants. Tout d'abord, trois architectes. Yves Belmont, qui est un architecte urbaniste de l'État et docteur en philosophie, qui a été architecte des bâtiments de France dans notre département au début des années 1990 et qui reviendra sur les quelques chantiers phares de son activité dans le département. Il sera accompagné de Laurent Chaigne, qui est l'actuel architecte des bâtiments de France en activité dans notre département et qui lui reviendra en fait sur les résultats du travail qui a été mené par son service depuis les 30 dernières années. Et il racontera justement un petit peu la façon dont on restaure les villages, notamment le problème des enduits et le contact avec les élus, le contact avec les artisans. Voilà, vraiment la réalité de son métier. Troisième architecte qui sera présent parmi nous ce soir, Stéphane Barrican, qui est architecte urbaniste aussi, mais qui est l'architecte conseil de l'État pour le département des Alpes-de-Haute-Provence. et donc lui qui abordera la question sensible des extensions urbaines autour des sites patrimoniaux, notamment dans un exemple précis, dans la commune de Moustier-Sainte-Marie, hein, puisque c'est toujours très problématique quand on est dans un secteur hautement patrimonial ou même simplement avec quelques bâtiments, c'est comment on fait évoluer le bâti, parce qu'évidemment il ne s'agit pas de tout figer et de muséifier les villages, hein, ça n'a aucun intérêt. Muséifié, mais oui, c'est le terme qu'on emploie. Il y a quand même des gens qui vivent et qui ont besoin aussi, des gens qui vivent dans les bâtiments patrimoniaux ou qui utilisent les bâtiments patrimoniaux. Donc comment on fait évoluer ces bâtiments sans les dénaturer le plus autant que possible, tout en continuant à leur donner une affectation. Parce qu'on sait qu'un bâtiment qui n'est pas utilisé est un bâtiment qui s'abîme. Donc, pour qu'il puisse continuer à être utilisé, il faut l'adapter.
Et
mais
puis
comment ?
Il coûte de plus en plus cher si ça vit.
Tout à fait, tout à fait. Donc, on a tout intérêt à utiliser les bâtiments. Alors après, c'est sûr que des fois, il y a des utilisations qui ne sont pas compatibles avec certains bâtiments. Mais après, c'est aussi le travail des architectes, et je pense que c'est de ça dont les architectes vont nous parler en particulier. C'est le travail, le rôle, l'expertise des architectes d'inventer des solutions d'adaptation du bâti pour faire en sorte qu'il puisse continuer à être utilisé. Sans qu'on oublie forcément leur usage premier. Donc, alors ça, c'est pour le bâtiment, mais après, quand on est dans un tissu urbain, ça, c'est encore d'autres problématiques de circulation, la place de la voiture, la place du piéton. Voilà, c'est sûr que c'est des sujets très, très compliqués, mais qui sont très importants à envisager, tout simplement pour notre bien-être au quotidien. Hein. Je veux dire, on a tous intérêt à être dans une ville ou un village, un paysage harmonieux et qui soit en même temps facile d'utilisation. À vivre. Voilà, et dernière intervenante ce soir, c'est Hélène Homps, qui est la conservatrice du musée de la Vallée à Barcelonnette, et qui, elle, viendra parler des villas mexicaines, hein, puisque c'est son sujet principal de recherche actuellement. Et là aussi, hein, il y a un projet de comment on gère ce patrimoine qui est quand même très présent dans la ville de Barcelonnette et dans les villages alentours d'ailleurs. Comment on gère ce patrimoine par rapport à une ville qui continue aussi à vivre, quel devenir on donne à ces maisons.
Cela concerne les bâtisses mexicaines.
Oui, 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 tout à fait.
Et il n'y a pas eu un problème par rapport à Barcelonnette. Il y avait une bâtisse qui ne devait plus faire partie du patrimoine. Il n'y a pas une histoire comme ça ?
Ah, alors je ne suis pas au courant. Là, je ne connais pas les derniers. Je suis au courant. Je sais qu'il y en a une qui a brûlé il n'y a pas très longtemps. Hein. Mmh. Il y a eu un problème électrique et la maison a intégralement brûlé. Voilà, donc parce qu'en fait, ce sont des maisons dont l'isolation est
pas
faite.
Pas forcément des maisons mexicaines, mais il y avait une bâtisse patrimoniale, entre guillemets, ouais. qui devait sortir un petit peu des vues du gouvernement, de l'État français, non ?
Ça vous dirait ? Moi, non, je ne suis pas. Alors, ça existe, hein, ce qu'on appelle des procédures de désinscription au titre des monuments historiques, c'est quand même assez rare comme procédure, mais il y a peut-être eu le cas à Barcelonnette, hein, mais je ne suis pas au courant.
C'est peut-être une erreur de ma part également.
On verra. Bon, après, il y a des désinscriptions quand entre le moment où on a protégé un bâtiment et le moment où aujourd'hui il y a pu se passer des choses contraires à ce que le bâtiment aurait dû être et qui bloquent, puisque c'est quand même assez contraignant, hein, la législation au titre des monuments historiques, évidemment, ça fait intervenir des personnes en particulier, on ne peut plus faire forcément n'importe quoi. Après, en contrepartie, on a des aides, hein, évidemment, pour entretenir et restaurer le bâtiment. Mais voilà, si dans un laps de temps, la maison a été totalement dénaturée ou voire détruit, ça arrive, hein. On a des arrêtés de protection, toujours sur des bâtiments qui n'existent plus, par exemple, qui ont été détruits pendant la guerre.
Et pour ce qui concerne les couleurs, parce que les couleurs passent avec le temps, mais pour retrouver l'original, faut faire appel avec des gens vraiment experts pour ceci.
Oui, alors en fait, ce qui se passe quand il y a un projet de restauration, on fait ce qu'on appelle des prélèvements de pigments. Alors souvent, il y a beaucoup de couches de peinture. Donc après, il y a, une fois qu'on a déterminé comment la maison a été peinte au fil des temps, ben il faut se décider sur une couleur qui correspond en général, on essaye, à l'état dont on souhaite rendre la maison. Voilà. Donc c'est sûr que c'est... Il y a toujours une part d'arbitraire, hein, malgré tout. Hein. C'est d'ailleurs ce que les gens ont des fois du mal à accepter par rapport aux avis qui sont donnés. Hein. C'est que oui, effectivement, il y a toujours une part d'arbitraire. Hein. Pourquoi cette couleur plutôt qu'une autre ? Même si ça repose sur des prélèvements, on sait très bien qu'il y a eu plusieurs couleurs à un moment donné. Alors c'est surtout vrai pour la peinture. Après, on pourrait discuter pour les aménagements, etc. Mais... Voilà, donc ça va être un beau sujet. Et donc c'est ce soir, aux archives départementales, les quatre intervenants feront leur présentation à partir de 18h et l'entrée est libre, comme d'habitude, aux archives départementales.
Rue du Trélus à Digne.
À Digne, oui, oui, rue du Trélus à Digne, tout à fait. Voilà, donc là, maintenant, on va évidemment revenir sur le centenaire de la Grande Guerre, puisque là, ça y est, on va fêter, vraiment commémorer l'armistice 1918. Donc là, pour nous, c'est vraiment, j'allais dire, l'achèvement de quatre années de travaux sur ce sujet. Donc au cours de ces quatre années, nous avons eu une exposition par an qui revenait sur l'année de la guerre correspondante, hein, donc 14, 15, 16, 17, et maintenant 17-18, où on parle de la victoire, et surtout victoire des morts, hein, de revenir sur ce bilan humain absolument catastrophique, hein, de la Grande Guerre, de tous les côtés d'ailleurs, enfin, côté allemand comme côté français. Alors, outre cette exposition, le service a publié un livre qui s'appelle « La Grande Guerre des Bas-Alpins », qui est vraiment la synthèse des travaux qu'on a menés pendant 4 ans. Alors, c'est un peu plus que les petits journaux que les gens ont pu récupérer au cours de ces 4 ans lors des expositions. C'est quand même une édition augmentée, avec beaucoup de photos, beaucoup de reproductions de ce que les gens ont bien voulu nous prêter, voire nous donner dans le cadre de la grande collecte. Hein, puisque vous savez, il y a eu un appel pour que les gens amènent aux archives départementales qui de la correspondance, qui des photos relatives à la Grande Guerre, relatives à la Grande Guerre. Voilà, donc c'est vraiment l'idée aussi d'un retour vis-à-vis des gens qui ont donné ou qui ont prêté pour leur montrer ce qu'on a fait avec ces dons et ces prêts. Donc, et puis c'est vraiment centré sur les Basses-Alpes. Voilà, donc ça c'est la publication. Ensuite, alors le 6 novembre, M. Labadie, directeur des archives départementales. Alors d'abord, avant le 6, parce que là, le 6 novembre, c'est chez nous, aux archives. Mais avant, à Oraison, M. Labadie va faire une conférence sur le travail des femmes durant la Grande Guerre. Le 5 novembre, à Fort-Calquier, à l'hôtel de ville de Fort-Calquier, il va y avoir une lecture d'archives sur l'armistice, hein, par la Mobile Compagnie. Ensuite, donc là, le 6 novembre, la conférence, cette fois, aux archives départementales, aux morts de 14-18, hein, vraiment sur le sujet, sur le bilan de la guerre. Donc là, ce sera aux archives, mardi 6 novembre à 18h. Et ensuite, vraiment, nos deux grosses journées, j'allais dire pour nous, pour la vie du service, ça va être le 8 et le 9 novembre. Alors, le 8 novembre, en fait, nous invitons Clémentine Vidal-Naquet, qui est une historienne qui est auteure d'une thèse sur le lien conjugal pendant la Grande Guerre, qui a travaillé sur plusieurs correspondances de poilus, entre poilus et leurs épouses, et donc qui a soutenu une thèse, qui a publié 2 ouvrages sur le sujet, qui est maîtresse de conférences à l'université Jules Verne de Picardie, voilà, qui est la spécialiste de la correspondance des poilus et qui est une spécialiste de ce courant de l'histoire qui vise à étudier l'intimité, la vie privée. Voilà, c'est une représentante éminente de ce courant historiographique. Donc elle vient à Digne, assez exceptionnel, on est vraiment très très heureux de l'accueillir. Alors elle vient d'abord, elle va animer des ateliers auprès de scolaires le jeudi matin et le vendredi matin aux archives, mais après pour le tout public, elle va faire une conférence sur le sujet des couples dans la Grande Guerre. Voilà, donc là vraiment j'invite tout le monde. Alors ça n'aura pas lieu aux archives départementales, car nous avons craint d'avoir une salle trop petite pour accueillir le monde qui ne manquera pas de venir, je pense, pour venir écouter Madame Vidal-Naquet. Donc ça sera la salle de l'abbé Ferraud à l'hôtel de ville de Digne, qui permet d'accueillir jusqu'à 180 personnes. Et l'entrée sera libre aussi, c'est à 18h. Et à l'issue de cette conférence, il y aura un spectacle. Un spectacle, donc nous avons fait venir une compagnie théâtrale de Paris qui s'appelle Green Box et qui est une compagnie de théâtre qui a travaillé sur l'ouvrage de Madame Clémentine Vidal-Naquet autour de la correspondance et donc qui met en scène des lettres de poilus et de leurs épouses. Donc ce sont 3 jeunes femmes qui jouent les épouses et les épouses qui sont chez elles et qui reçoivent les lettres de leur mari, qui lisent la presse, qui réagissent, comment elles vivent la guerre, elles, de leur point de vue.
du fait que ça soit ça l'abbé Ferro, il y aura plus de place pour les décors.
Alors en fait, c'est très minimaliste comme décor, parce que c'est un spectacle qui est conçu pour être mobile. Et donc, les simples décors, ce sera trois chaises. Par contre, elles sont en costume, elles. Elles sont en costume. Elles sont en costume 1910.
Un qui aimait bien être costumé, c'est David Bowie.
Oui.
Vous avez choisi, pour faire une petite pause, le morceau Candidate. C'est un album, ça tire d'un album qui vous plaît ?
Oui, beaucoup. C'est un concept album. Hein, et je l'ai réécouté il y a peu de temps lors d'un trajet en voiture pour Nice. Et sans mentir, le morceau Candidate, je l'ai eu dans la tête pendant 10 jours. Je n'arrivais pas à m'ôter la mélodie. Donc j'espère que ça aura le même effet sur vos auditeurs.
On retourne avec Laure Franek et pour poursuivre la présentation, il y a donc de ce spectacle qui va avoir lieu au mois de novembre.
Mois de novembre, voilà. Donc le 8 novembre, donc je rappelle à partir de 18h à la salle de l'abbé Ferro, les archives départementales invitent Clémentine Vidal-Naquet, une historienne spécialiste de la Grande Guerre et notamment des couples dans la Grande Guerre. Hein. Elle est auteure d'un livre paru aux éditions des Belles Lettres en 2014, « Couple dans la Grande Guerre, le tragique et l'ordinaire du lien conjugal ». Voilà, tout un programme. Et elle a aussi publié aux éditions Bouquin, dans mon souvenir, « Correspondance conjugale 1914-1918 dans l'intimité de la Grande Guerre ». Et c'est à partir de ce livre-là donc, que la compagnie de théâtre Green Box a conçu son spectacle.
Et la correspondance, c'était pas trop dur à lire ?
Non, au contraire, parce qu'une correspondance, on l'utilise beaucoup, nous, dans nos lectures d'archives, hein, par la Mobile Compagnie notamment. C'est vivant, surtout qu'à l'époque, les gens avaient l'habitude de s'écrire, donc ils disaient des choses très intimes. Il n'y avait pas de téléphone, hein. Enfin, il y avait, mais pas de manière courante. Donc, c'est souvent très... Et puis, en plus, quand on a la chance d'avoir des gens qui savent écrire, voilà, ce qui est parfois le cas, ça peut donner des textes très beaux, très littéraires, très intimes. Donc non, la correspondance, au contraire, c'est assez... je ne dis pas que c'est facile à adapter, mais c'est d'ailleurs Une des raisons pour laquelle nous avons tenu à aussi profiter de la venue à la fois des comédiennes et de cette historienne pour qu'il y ait un échange avec du public scolaire, parce que là l'idée c'est que les deux matinées là, du 8 et du 9 novembre, on va avoir trois classes qui vont venir aux archives départementales de niveaux différents, on a des troisièmes et des premières.
Comme ce que vous aviez fait pour l'esclavage.
Tout à fait, pour l'esclavage, pour 1851, on essaye de faire comme ça, d'essayer de toucher plusieurs classes du département en même temps et de profiter d'intervenants. Bon là en plus on a vraiment de la chance parce que c'est vraiment assez exceptionnel de pouvoir avoir les deux en même temps. D'ailleurs je suis une incise, mais c'est en fait par les comédiennes qu'on en est venu à Madame Vidal-Naquet, parce qu'en fait on a été informé de ce spectacle autour de la correspondance de Poilu. Quand j'ai vu que c'était adapté du livre de Madame Vidal-Naquet et qu'elle connaissait Madame Vidal-Naquet, du coup, on a contacté Madame Vidal-Naquet qui est venue. Donc, c'est pas dans l'autre sens, en fait. C'est assez amusant. Et donc, voilà, pour revenir, on aura donc trois ateliers. Un atelier qui sera dirigé par le service éducatif du service, qui présentera ce que nous avons comme fonds d'archives relatives à la Grande Guerre. Madame Vidal-Naquet expliquera aux enfants, aux élèves, comment on fabrique l'histoire à partir des archives. C'est vrai que c'est assez mystérieux. Hein, je pense que comme... un peu comme le lait dans la brique où les enfants n'imaginent pas qu'il y a une vache derrière. C'est comment est-ce qu'on fabrique l'histoire? Elle est derrière le mur, voilà, on ne la voit pas toujours là. C'est comment on fabrique l'histoire? L'histoire ne se fabrique pas dans les manuels, hein. Et il faut d'abord aller dans les archives ou aller à la rencontre de témoins. Voilà. Donc c'est tout ça que Madame Vidal-Naquet va expliquer aux enfants. Et pour finir, une comédienne expliquera comment elle, en tant que comédienne et metteur en scène, elle adapte ce matériau-là, parce qu'effectivement, c'est un défi en soi, pour la scène. Voilà, donc ça me semblait intéressant d'avoir ces trois aspects, et donc ça va être sur les deux matinées. Voilà, en revanche, après, pour la conférence pour tout public, là, le 8 novembre, bon, les comédiennes répondront aussi aux questions, elles resteront là, mais là, ça sera vraiment plus académique, il y aura une présentation des sujets de recherche de Madame Vidal-Naquet, puis le spectacle pour finir, voilà.
Et toujours par rapport à ces élèves, des élèves qui sont venus précédemment, vous allez pouvoir en revoir, il y a un suivi, ou ce sont d'autres classes qui viennent?
Oui, alors on travaille sur deux choses. On a actuellement un travail, j'allais dire, sur deux ans. On a commencé avec une classe de quatrième qui est aujourd'hui une classe de troisième à Château Arnoux. J'en reparlerai parce qu'en fait, c'est une des classes qui avait participé au spectacle qui avait eu lieu en partenariat avec nous au Centre culturel René-Char le 11 juin et qui va être reprogrammé à nouveau à la fin du mois de novembre. Voilà, donc là, ces élèves ont travaillé donc presque pendant deux ans, du coup, deux années scolaires, sur la correspondance d'Augustin Richaud, vous savez, ce poilu dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui a écrit à sa femme qui est mort et après dont le fils est retourné des années après à chercher la tombe. Voilà, c'est une histoire en plus qui est triste, comme beaucoup d'histoires de la Grande Guerre, mais on a vraiment toute l'histoire. Hein. On a depuis le mariage, la mort et le retour sur la tombe. Donc ça, ce sont des élèves, c'était très intéressant pour ça, avec lesquels on a pu travailler justement sur deux années scolaires. Ensuite, là, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle des classes patrimoine, qui existent déjà pour plein d'autres thématiques, mais une classe patrimoine archive. Voilà, justement, pour travailler plus en profondeur avec les élèves et les enseignants. Parce que c'est pareil pour les enseignants, quand ils viennent juste une fois, après, évidemment, c'est aussi à eux de revenir sur ce qui a été fait, d'abord d'avoir préparé la venue aux archives, et puis de revenir après sur ce qui a été fait avec leurs élèves. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même profondeur dans l'approche, si on peut travailler avec eux sur plusieurs séances. Voilà, mais ça arrive, oui.
Et pour cette approche, dans leurs cours qui sont donnés, ils en parlent régulièrement de ça, ou c'est juste un moment précis? Bon, là, il faut aller là parce qu'il faut y aller.
En fait, le programme du service éducatif essaye quand même. On a une enseignante hein, qui est mise à disposition par le rectorat aux archives départementales et qui connaît les programmes en fonction des années. Et des années, enfin, je parle des niveaux scolaires. Et donc, qui propose... et nous aussi on propose, hein, c'est un travail collaboratif qui propose des sujets qui sont à même évidemment de correspondre à ce que les enseignants étudient avec leurs élèves. Et c'est sûr qu'il y a des sujets qui sont très difficiles, même s'ils sont intéressants. Vous savez comment c'est, les programmes sont quand même bien denses, le temps est assez contraint. Donc de toute façon, si on veut que des classes viennent, outre les problèmes matériels que ça pose, de déplacement d'élèves, etc., il faut que ça rentre dans un cadre pédagogique et que ça puisse venir en appui d'un propos pédagogique de l'enseignant, un sujet qu'il aurait de toute façon abordé. Voilà. Après, l'esclavage, par exemple, c'est pas une thématique qui est très étudiée, mais voilà, c'est un souhait politique de revenir sur ces thématiques-là. Là, c'est pareil, en 2019, ça va être l'anniversaire de la retirada, hein, tous ces réfugiés espagnols qui sont arrivés au moment de la retraite des armées républicaines, donc en Espagne. En plus, c'est un sujet éminemment d'actualité, puisque des réfugiés, il y en a eu, il y en a et il y en aura encore. Donc c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé. On n'imagine pas. Hein. Il y a eu 1,5 million de personnes qui sont arrivées. Hein. C'est aujourd'hui, on parle de 1 000, 10 000. Mais là, c'est en quelques semaines. Hein. Ça a été vraiment un déferlement qui a été pas forcément facile à préparer, des deux côtés d'ailleurs, que ce soit du côté réfugié ou du côté des villages qui ont vu arriver toutes ces personnes totalement démunies. C'était un vrai défi. Donc on a eu une soirée à ce sujet il y a 15 jours aux archives, et c'était très intéressant parce que notamment on a eu une témoin, une femme qui avait 17 ans à l'époque, qui a franchi deux fois la frontière, qui est maintenant installée depuis en France et qui est revenue sur ces années-là. Et c'était intéressant parce que dans le public, il y a quelqu'un à un moment donné qui est intervenu et qui a dit « Comment vous expliquez que les Français ont si mal accueilli les Espagnols ?» Et la personne, qui, elle-même espagnole, a dit « Mais les Français ne nous ont pas mal accueillis. » Elle a dit, il y a eu des choses difficiles, c'est sûr, hein, il y a eu des conditions pas terribles, mais elle dit, moi, je me mets à leur place, voir arriver toutes ces populations d'un seul coup dans des villages. Le conférencier expliquait que dans le département, il y a eu l'équivalent de la ville de Fort Calqui qui est arrivée à l'époque, 2 500 personnes. C'était l'équivalent de la ville de Fort Calqui à l'époque. Donc vous imaginez, c'est une ville d'un seul coup qui arrive. Donc comment, voilà, ça pose des vrais défis. Donc c'est intéressant d'avoir le point de vue du témoin, qui reste un point de vue unique. Hein. Peut-être qu'on demanderait à un autre témoin, et il aurait un souvenir absolument catastrophique, et il dirait qu'effectivement, on l'a très très mal accueilli. Mais c'est toujours bien, je trouve, d'être nuancé dans les propos. C'est le travail de l'histoire.
Et pour l'esclavage, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'enfants, parce que c'est concerné des élèves de collège. Quoi. Mm-hmm. À l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'enfants qui sont esclaves quoi, de par le monde. Quoi.
Mm-hmm. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est là aussi, de toute façon, malheureusement, les sujets en histoire restent d'actualité. Vous savez, la guerre, les réfugiés, les maltraitances. Quand on les étudie dans le passé, forcément, il y a un moment donné où on se rend compte qu'il y a des situations qui perdurent. Mais c'est pour ça que c'est important de les étudier aussi, hein, parce que ça permet de relativiser, je ne dis pas d'accepter, hein, mais de relativiser et de comprendre les mécanismes qui font qu'on n'arrive pas à se défaire d'un certain nombre de choses. Hein. Il y a très souvent, quand même, c'est des raisons économiques. Hein. L'esclavage, c'est des raisons économiques. Hein. Ça fait gagner de l'argent de réduire quelqu'un en esclave. Et comme l'appât du gain mène le monde, et ben voilà. Donc, et très souvent, c'est ça. Hein. Après, il y a des raisons politiques, etc. Mais quand même, très souvent, c'est des raisons économiques. Même la guerre, hein. Souvent, quand on réfléchit bien aux enjeux de la guerre, on peut mettre un peu de religion, un peu de politique par-dessus. Mais très souvent, derrière, il y a des gros enjeux économiques. De l'accès à des matières premières, de l'accès à des territoires, l'accès à la mer. Voilà. Et tout ça, c'est des enjeux économique, toujours.
Enjeu industriel aussi.
Enjeu industriel. Mais l'industrie, c'est de l'économie aussi. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc j'invite vraiment tout le monde à venir le 8 novembre à 18h à la salle de l'Abbé Ferraud. Ça va être une belle soirée, très, très riche, je pense. Voilà, et donc toujours centenaire de la Grande Guerre. On va terminer cette fois-ci avec les élèves, donc avec l'inspection académique. Donc ce spectacle qui avait été fait le 11 juin au Centre culturel René Char, qui avait été un spectacle uniquement des élèves pour des élèves, là va être proposé non seulement aux parents des élèves, et du coup va être proposé au gymnase Pierre-Gilles de Gênes, du lycée Pierre-Gilles de Gênes, pardon. Et donc lui qui peut accueillir jusqu'à 450 personnes. Voilà. Et donc il y aura à peu près ce qui avait été travaillé, donc les lectures d'archives par le collège de Château-Arnoux, des scénettes par le collège de... Il y a Borély qui va faire quelque chose, il y a une chorale de l'école des Sieilles, et le collège Gassendi aussi qui participe. Donc c'est à la fois chant, danse, scénettes, lecture. Voilà. Donc ça va être une belle, belle soirée aussi. Et ça, c'est le 27 novembre. Alors, ce n'est pas ouvert à tout public, mais c'est aussi pour revenir sur le travail des archives départementales, et pas que nous, hein, évidemment, parce que là, il y a l'inspection académique, notamment, qui intervient. C'est l'essentiel pour nous, c'est aussi de toucher les jeunes. Hein, je reviens à l'histoire du lait dans la brique de lait et de la vache qui est derrière. C'est voilà, leur expliquer qu'on ne vient... Même nous ne sommes pas sur Terre. Ex nihilo, il y a une histoire... derrière nous, il y aura une histoire après nous, et que c'est important d'avoir cette notion du temps.
Justement, à propos de temps, ils sont dans l'immédiat, avec tout ce qu'ils ont à disposition, ils appuient sur un bouton, ils savent, alors qu'au lieu de réfléchir un petit peu pour amener cette réflexion, c'est plus facile. Donc ça doit être quand même un travail de longue haleine pour essayer de leur inculquer tout ceci.
Alors, moi je dirais que... Je pense que les enfants aujourd'hui, c'est sûr, ils ont une autre façon de réfléchir. Après, ils sont très curieux quand même. Ils sont sans doute beaucoup plus curieux parce que justement, ils ont une ouverture maximale sur le monde avec les avantages, mais aussi les inconvénients de cette ouverture. C'est que du coup, ils sont perméables à beaucoup de choses, plus ou moins bonnes. Mais ils ont cette vélocité d'esprit qui peut nous désarçonner, même dans l'élocution. Quand vous écoutez un enfant parler, il parle très très vite. Voilà. Ils sont très vifs. Alors peut-être trop. On peut aussi le penser parfois, trop notamment dans la concentration, c'est-à-dire passe peut-être un peu vite d'un sujet à l'autre, mais n'empêche, ils ont quand même une dextérité intellectuelle et une capacité au changement qui est quand même quelque chose qui est fondamental dans nos sociétés actuelles où tout va très vite. De toute façon, on est le produit de notre société. Le monde bouge, donc on a des jeunes qui bougent et des jeunes qui vont vite, qui vont vite à taper leur message sur leur portable, qui vont vite à parler, qui passent vite d'un sujet à l'autre. C'est aussi une force. De toute façon, on s'adapte. L'humain s'adapte. En tout cas, il a tout intérêt à le faire.
Bougeons avec le monde.
Bougeons avec le monde, oui. Et puis, accompagnons le monde pour qu'il bouge dans le bon sens. Ça c'est peut-être plus difficile à obtenir. Voilà. Bon, ça devient philosophique. Mais comme quoi l'histoire mène à tout. Voilà, donc la Grande Guerre, après le 27 novembre, normalement on est reparti pour ne plus parler de la Grande Guerre pendant un bon bout de temps.
Pour au moins 100 ans.
Il y a des chances, alors on peut le déplorer. Après c'était un peu le moment où jamais, il y a encore quelques rares survivants, c'était le moment pour faire sortir les archives des familles, le moment d'en parler. Voilà. Après il y a malheureusement d'autres sujets qui vont prendre la suite, notamment la Deuxième Guerre mondiale qui va entrer à nouveau dans un cycle de commémoration avec les années qui arrivent, 2019. Donc voilà, c'est toujours la guerre, quand même beaucoup la guerre. Mais bon, la guerre, ça provoque un tel séisme, un tel cataclysme dans des pays que c'est normal qu'on y revienne.
De toute façon, elle était sous-jacente entre les deux guerres. Il y a des mouvements pas forcément très sympathiques qui sont mis en place petit à petit. De l'autre côté de la frontière, pour ce qui concerne la France, avec l'Italie, comme on sait tôt, malheureusement.
Tout à fait. De toute façon, on sait que les trois guerres, pour ce qui est pour chez nous, 1870, 1914, 1939, sont liées. Je veux dire, il y a un effet domino. On paye toujours nos actes. Je veux dire, on pourrait aussi analyser ce qui se passe aujourd'hui avec le terrorisme à la lumière de la politique coloniale que l'Europe a eue pendant des années. Je veux dire, on a mis des germes qui sont devenus ce qu'ils sont, qui auraient pu être autre chose. Mais voilà, après, c'est pas la seule raison. On est toujours responsable de nos actes à un moment donné.
C'est ce qu'expliquait le préfet Bernard Guérin à l'issue d'une de vos... expositions,
oui.
Où il avait parlé justement de ça, que la guerre 14-18 avait engendré beaucoup de choses qu'on paye maintenant encore.
Bien sûr.
Tout s'était mis en place. Voilà.
Même le découpage des pays. C'est sûr. Mais bon, la Deuxième Guerre a entraîné l'Europe. Voilà, il y a beaucoup. De toute façon, on est vraiment. Hein, et ça, je crois que c'est vraiment important de faire comprendre ça aux jeunes, notamment. Hein, je reviens aux jeunes parce que c'est vraiment important je dis pas que les adultes et c'est fini pour eux, mais c'est les jeunes, hein, qui vont faire le monde de demain, donc qui comprennent ça et ces enchaînements de cause à effet, et qu'effectivement, on n'est pas le produit de rien, et que ce qu'on fait aujourd'hui, ça aura un impact sur ce qui va se passer demain. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. On pourrait dire la même chose sur l'écologie. Hein. Voilà, hein, ce qu'on fait aujourd'hui, on sait, ça a un impact sur l'avenir de la planète. Et c'est vrai qu'on est dans un temps très court aujourd'hui. On a du mal à... Enfin, aujourd'hui, je pense qu'autrefois, c'était pareil. Hein. Je dis aujourd'hui, mais vous savez, je pense que le paysan du Moyen-Âge, il devait pas trop... Alors après, si, il était dans un temps long, peut-être par rapport à sa foi, voilà, parce qu'il imaginait qu'après il allait se passer quelque chose, mais eux, leur temps était vraiment très très court, hein, parce qu'ils n'avaient pas une espérance de vie très très importante, donc il restait très peu de temps sur Terre. Voilà, voilà pour vraiment l'actualité autour de la Grande Guerre. Ça, après, on va passer à autre chose, hein, c'est ce que je disais, et on va changer complètement de sujet en 2019. Donc on va parler de la retirada, parce que c'est un sujet pas très connu pour le département. C'est-à-dire qu'on connaît assez bien le sujet pour les Pyrénées-Orientales, voilà, c'est Rivesaltes, voilà, c'est ces camps emblématiques qui ont été retenus dans la mémoire collective. Mais en fait, il y a eu des réfugiés absolument quasiment partout en France. Et donc ça va être intéressant de revenir sur ce sujet-là, en écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Et puis après, notre grande exposition en 2019 va porter sur le traitement judiciaire et médiatique de l'affaire Dominici. Voilà, donc ça va être un vrai sujet, une affaire criminelle qui a littéralement secoué le département et la France, parce que justement, nous, on ne va pas refaire le procès. Hein. Il ne s'agit pas de savoir qui est coupable, qui ne l'est pas, mais c'est d'étudier le traitement médiatique de cette affaire. C'est un des premiers procès à avoir eu vraiment un retentissement national, voire au-delà. Et aussi étudier le traitement judiciaire, hein, parce qu'évidemment il y a eu, c'est comme si une enquête qui a été médiatisée très tôt, voilà, comment la justice qui depuis a su faire avec les médias pour le bon et le moins bon, mais voilà, comment la justice a géré ça, et donc ça va être le sujet de notre exposition. Voilà, donc on va sortir vraiment de la guerre. Bien que l'affaire Dominici, c'est aussi l'après-guerre de la deuxième.
53.
Voilà, et ça a sans doute un sens aussi que ça ait lieu à ce moment-là. Hein. D'abord parce qu'on sortait justement d'un conflit, qu'il y avait des armes un peu partout dans le pays, que voilà, il y a eu des actes assez sauvages, hein, en matière de crimes. Hein. On a toujours l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une société très violente, mais... Et autrefois, c'était très, très violent. Il y avait vraiment des faits divers très sanglants. Et il y avait pas du tout le même rapport aux armes et au corps. Et notre seuil d'intolérance s'est quand même beaucoup augmenté, heureusement. Hein. Quand on voit aujourd'hui comment on s'offusque on en parlait il n'y a pas très longtemps avec M. Labadie, à juste titre, hein, on s'offusque par exemple de comment on réprime des manifestations. Quand on voit au 19e siècle comment on envoyait la cavalerie charger les manifestants, qui étaient tués, qu'on brûlait des immeubles, qu'on brûlait des femmes et des enfants. Alors, on a oublié 62, hein, okay. les manifestations pour l'Algérie. Voilà, on oublie. Hein. Heureusement qu'on a oublié. Donc c'est assez étonnant de voir qu'aujourd'hui, le seuil de tolérance s'est quand même considérablement relevé, et qu'aujourd'hui, du coup, on a l'impression d'être dans une société violente. Mais cette violence n'a rien à voir avec ce qui existait il y a encore 50 ans. Mais parce qu'on sortait de conflits, qu'il y avait eu des... Voilà, la mort était omniprésente. La mort est beaucoup moins omniprésente actuellement. Et heureusement, hein, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas normal. Hein. Mais c'est intéressant de toujours revenir à ça et de se dire « Ah oui, effectivement, c'est quand même... Je suis quand même bien contente d'être en 2018. » Voilà, pour ces belles annonces... Venez vraiment aux archives départementales. Il va y avoir plein de choses.
Déjà ce soir.
Ce soir, tout à fait. Merci.
Prochain rendez-vous avec vous, monsieur Jean-Christophe
Labadie. Oui, je ne sais pas, on va voir.
Jeudi 15.
Tout à fait.
Jeudi 15 novembre.
Très bien.
Merci.
Au revoir, merci à tous.